commencer Bezrat Hashem, Perek Vav, le sixième chapitre de Igaret HaTshuva, donc c'est page 190. Jusqu'à présent, on a expliqué dans Igaret HaTshuva, je vais faire un point brièvement, parce que ça fait quand même deux semaines qu'on n'a pas étudié. Ouais. On a commencé à expliquer dans Igaret HaTshuva, que c'est quoi la notion de la Teshuva selon l'Admor HaZaken. La notion de Teshuva selon l'Admor HaZaken, c'est selon la Torah. C'est de décider de ne plus se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Les gens pensent que la Teshuvah, c'est lié à des jeûnes, à des souffrances, etc. C'est une erreur. La Teshuvah, c'est pas ça. La Teshuvah, c'est une décision interne, une décision intérieure. C'est une décision dans laquelle la personne se dit, plus jamais je ne manquerai de respect à Akadosh Baruch Hu, plus jamais je me révolterai contre Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Teshuvah. Mais en parallèle, d'accord? D'accord, très bien, on va dire les chaïm alors. Voilà, les lounishma. Razak. Maintenant, en parallèle à l'essentiel de la Teshuvah, ce qu'on a appelé dans le premier chapitre Ikar Mitzvah Teshuvah, l'essentiel de la Teshuvah. D'accord? Oh, Gashmi, ça c'est quoi ça? On te voit. En parallèle, comment tu peux écouter le cours si t'es.
En parallèle.
T'as la tête dans le.
En parallèle.
Allez, ça y est.
Al-Morzakan a dit que c'est la Teshuvah, c'est décidé de changer, de ne plus recommencer.
Avec la bouche pleine.
C'est pas lié à des jeûnes, à des mortifications.
En parallèle à l'essentiel de la Teshuvah, on a le complément de la Teshuvah. C'est quoi le complément de la Teshuvah? Ça veut dire que, suite à la Teshuvah de base, Akadosh Baruch Hu ne va plus nous en reparler le jour du grand jugement. Ah, il ne t'en parle plus. Ça se dit, bon, fait comme si il s'est rien passé, mais pourtant il s'est passé quelque chose. À quoi va servir le complément de la Teshuvah? Le complément de la Teshuvah va servir justement à essayer de réparer la faute qu'on a fait, et à essayer d'être, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme on était avant la faute. C'est-à-dire pas seulement qu'il nous en reparle pas, ça c'est déjà avec la Teshuvah. On veut aussi réparer sincèrement la faute. Comment, c'est quoi le complément? Alors on a expliqué que le complément va se faire au travers, à l'époque c'était au travers des corbanotes, sacrifices, d'accord? De nos jours, d'accord? Donc à l'époque c'était au travers des corbanotes, après, en crescendo on est parti, donc après, c'était par les jeunes, et de nos jours, c'est par là, c'est d'accord. D'accord? On a expliqué longuement tout le concept. Très bien. Bon. Ça, c'est ce qu'on a expliqué dans les trois premiers chapitres du Tania. On a expliqué, l'essentiel de la Teshuvah, c'est d'essayer de ne plus refauter. Le complément de la Teshuvah, c'est quoi? C'est justement pour être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme avant. On est d'accord? Ça, c'est l'essentiel de la Teshuvah. Tout avait l'air très facile. Sauf que, on sait très bien que ça se passe, que les choses ne se passent pas comme ça. Qu'en vérité, nous, on passe plus de temps au complément. Hein, le complément, ça en fait beaucoup de tefillot, etc. Mais en vérité, on se demande est-ce que, finalement, à cause du complément, on n'est pas passé à côté de l'essentiel. C'est-à-dire, toutes les tefillot qu'on fait à Yom Kippour et tous les jours dans lesquels on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, etc. Finalement, tout ça, c'est des compléments. C'est pour demander à Kadosh Baruch Hu d'accepter notre teshuvah à 100%. Mais avant d'accepter notre teshuvah à 100%, il faut d'abord faire teshuvah. Donc finalement, est-ce qu'on perd pas notre temps? D'accord? Est-ce que on a réellement fait l'essentiel de la Teshuvah? Est-ce qu'on a réellement décidé de changer avant de se la jouer grand sadique et dire bon maintenant on va faire les compléments, on va essayer de régler le petit problème. Avant de régler le petit problème, on règle d'abord le grand problème. Est-ce qu'on a réellement changé? Est-ce qu'on a réellement décidé de ne plus en foutre? Là, l'Admor HaZaken a expliqué dans le chapitre 4, expliqué que pour comprendre qu'est-ce que c'est la Teshuvah, et pour comprendre, là en vérité on a compris que, en vérité on ne sait pas la Teshuvah. Parce que sinon on n'aurait pas refauté si facilement que ça. Page 190. Donc pour répondre à cette question, l'Admor HaZaken a expliqué dans le chapitre 4, et la mission se réveille. L'Admor HaZaken a expliqué dans le chapitre 4 que pour comprendre ça, il faut d'abord retracer complètement, il faut expliquer, redéfinir les contours, essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est la Teshuvah. Pour expliquer qu'est-ce que c'est la Teshuvah, il faut d'abord expliquer qu'est-ce que c'est le juif. Après on va expliquer quel est le lien entre un juif et Akadosh Baruch Hu. Après on va expliquer comment ce lien est affecté par une mitzvah et par une avera. Et c'est seulement après qu'on comprend, hein. C'est seulement après qu'on comprend comment on peut réparer une avera. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, je répète. Allez, monsieur, si on rate le train du début, après on perd une heure, c'est dommage.
Ça, c'est la faute de Apple, ça.
D'accord.
Je suis promis l'iPhone, pour le tailleur.
Non, ou les éteindre.
Je suis promis, non.
Alors, on est en train d'expliquer. D'accord? On a dit que, Admor HaZaken a expliqué dans le chapitre 4, il a dit, pour comprendre qu'est-ce que c'est la Teshuvah, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est le juif. Quel est le lien qui est entre un juif et un Kadosh Baruch Hu? Quel est le lien qu'il y a entre un juif et un Kadosh Baruch? Tiens, tu peux poser ça là-bas, ça derrière, s'il te plaît. Quel est le lien entre un juif et un Kadosh Baruch? Une fois qu'on aura compris ça, on aura compris comment on affecte ce lien au travers du Navera, et comment on répare ça avec la mitzvah. Bon. Donc on a expliqué longuement, dans les premiers chapitres, à partir du chapitre 4, 5, coffre, on a expliqué longuement. Je ne sais pas si vous vous rappelez la différence entre... On a expliqué que dès la conception, le juif et le non-juif ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'ils se rappellent?
Mm-hmm.
On a expliqué. Le juif, on a dit, il est conçu par, par l'essence. C'est comme le...
L'inspiration.
Très bien, l'inspiration. Voilà. Alors que le non-juif, il est créé, on a expliqué, par... Et tout le reste, même les malachim. Ils sont créés par la parole, ça veut dire quoi? C'est-à-dire par quelque chose qui est extérieur, qui est superficiel. On avait donné aussi l'exemple de Yudke Vavke, vous vous rappelez?
Mm-hmm.
Le plan, le business plan, le fameux business plan, dans lequel on a expliqué que le juif, il est capable de retracer le business plan, enfin le plan d'Akadosh Baruch Hu depuis le début, c'est-à-dire depuis la pensée initiale, etc., jusqu'au projet, jusqu'à la finalité du projet. Alors que le non-juif, lui, il a que le dernier ré. C'est quoi le dernier ré? Le dernier ré, on a expliqué, bonsoir, c'est l'utilisateur final, c'est le client final. D'accord? Donc c'est la différence entre le juif et le non-juif. Le non-juif, c'est plutôt superficiel, donc lui, il a seulement l'aspect extérieur, le dernier « hé », alors que nous, on arrive à retracer, depuis le début de la chaîne, « yutke vavke ». Bon, c'est ce qu'on a expliqué. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, maintenant on va revenir à une question qu'on a posée au début du chapitre 4. Vous allez voir que c'est lié. On a posé une question, on avait dit comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont « chayav karet », que selon la Torah, des gens qui sont « chayav karet », c'est-à-dire que la Torah a décidé que des jeunes personnes comme ça ne doivent pas dépasser 50 ou 60 ans, et pourtant, aujourd'hui, on voit que ces gens-là, ils vivent très bien. Pas seulement ils vivent, mais ils vivent très bien. D'accord? Parce qu'on a dit si encore ils vivaient dans la pauvreté.
Pourquoi tu arrives à les identifier?
Oui. Il y en a.
Il y a des noms, on a des noms.
Oui, non, il y en a, non, c'est clair qu'il y en a. Faut pas...
Non,
pas
non, mais, non, mais il faut...
D'accord. Il y en a, non, c'est clair.
Comment on sait qui c'est qui est Khayyaf Karet?
On n'a pas demandé qui c'est.
Bon. Oui, mais bon, comment on peut dire ça?
Non, on sait, il y a des gens qui sont Khayyaf Karet. Il y a des gens, qui savent ce qu'ils font, qui savent la gravité de ce qu'ils font. Et qui...
Ils savent.
D'accord? Bien sûr.
Si c'est pas la gravité de ce qu'il fait, il le fait.
C'est pas très clair parce qu'a priori, bon. Irène, Réna, Batshava, Soulika. Réna, Batshava, Soulika. A priori, bonne question, a priori, il n'y a pas beaucoup de différence. Normalement, car, parce que qu'est-ce qu'on a expliqué dans le chapitre 5? On a expliqué que, ça veut dire quoi, Khayav Karet? Je sais pas si vous vous rappelez. On a expliqué que Khayav Karet, d'accord? Oui, mais on a expliqué, on avait donné un exemple. Vous vous rappelez, on avait donné l'exemple de la corde. D'accord? On avait donné l'exemple de la corde, on avait donné deux choses. D'abord, on avait expliqué que puisqu'un juif, vous rappelez, on a expliqué la différence entre la parole et l'inspiration. On a expliqué que l'inspiration peut être coupée avec la moindre chose. Comme quand une personne joue de la flûte, il suffit qu'il mette une petite coupure et ça y est, ça coupe le souffle, il n'y a plus de son de la flûte. Alors quand on parle, si je mets ma main devant la bouche, je peux continuer à parler. Parce qu'on a expliqué que comme l'inspiration, comme ce qui est plus profond et plus raffiné, donc elle peut être altérée, en plus on avait expliqué, elle peut être altérée très rapidement. Ça, c'est un premier point qu'on avait expliqué. Donc on avait dit de la même manière, un juif, lorsqu'il fait une avéra, qu'est-ce qui se passe? Il coupe le cordon avec Akadosh Baruch Hu, surtout une avéra sur laquelle on a travaillé karet. Karet en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire retrancher. D'accord? Donc on avait donné l'exemple, on avait dit c'est comme une corde, vous vous rappelez l'exemple de la corde? On a dit c'est comme une corde qui est tissée de 613 fils. S'il y a des fils que si tu coupes, ça n'a pas d'implication sur le reste de la corde, mais il y a des fils qui sont essentiels, que si tu coupes ce fil, c'est explosif, c'est tout qui saute. Ça veut dire qu'on avait expliqué que le fait qu'une personne est chayav karet, qu'une personne est retranchée, Dieu préserve d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il fait une avéra, c'est pas une punition, c'est un résultat direct de ce qu'il a fait. On est d'accord? C'est ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 5. Donc, avec tous ces éléments qu'on a expliqués, il y a une question qui vient, c'est quoi la question qui vient? C'est, dans ce cas-là, comment ça se fait qu'on voit qu'il y a des gens qui font des avérotes sur lesquels ils sont chayav karet, et a priori, peu importe, pour répondre à ta question Youssef, peu importe s'ils le font en faisant exprès ou sans faire exprès. Une personne qui vient qui a tout cassé, peu importe s'il a fait en faisant exprès ou sans faire exprès. S'il a tout cassé, il est responsable. Enfin, il a cassé, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a expliqué dans le chapitre 5? Dans le chapitre 5, on a expliqué qu'il y a une corde et qu'il y a certains fils qui sont explosifs, que quand tu les coupes, ça fait tout sauter. Alors, peu importe si ça fait exprès ou si t'es conscient de ce que tu veux ou t'es pas conscient, il a quand même fait.
Oui, tu comprends ou pas?
D'accord? Donc, dans ce cas-là, la question qu'on se pose, où on en est jusqu'à présent dans le développement? On a expliqué qu'est-ce que c'est le juif. Que le juif est conçu différemment. Le juif est conçu de manière beaucoup plus profonde. On a expliqué que puisque le juif est conçu beaucoup plus différemment, donc naturellement, le lien est beaucoup plus fragile. C'est comme un vêtement en soie. C'est beaucoup plus fragile. Ça se salit très rapidement. C'est beaucoup plus rapidement. On a expliqué que quand on est chayav karet, Dieu préserve, c'est pas une punition que Dieu nous donne, mais c'est un résultat direct de ce qu'on a fait. Par exemple, je prends la bouteille, je la lâche. Elle se casse. Pourquoi elle s'est cassée? Est-ce que c'est une punition parce que je l'ai lâché, ou est-ce que c'est un résultat direct de mes actes? D'accord ? C'est un résultat direct de mes actes. C'est pas que j'ai lâché la bouteille, je dis « Ah, t'as lâché la bouteille, on va te punir, elle va se casser. » Non, c'est pas une punition. C'est un résultat direct de mes actes. Donc, de la même manière, lorsqu'on dit une personne qui est Khayaf Karet, qui s'est détachée de la Kadosh Baruch, c'est pas une punition. C'est un résultat direct de ses actes. Bon. Donc dans ce cas-là, on comprend qu'il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas où aller. Une personne qui a fait une avéra sur laquelle on est Khayaf Karet, il est séparé de la Kadosh Baruch, il est coupé de la Kadosh Baruch. Or, on a expliqué qu'une personne qui est coupée de la Kadosh Baruch, normalement, il doit mourir avant 50, 60 ans. Dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Dans les faits, on a des grands réchaïm. Peu importe, ils font, s'ils font exprès ou pas exprès. En tout cas, des gens qui font aucune mitzvah.
Et on a des, d'accord. Et on a des gens juste qui meurent plus jeunes.
D'accord. Ça, c'est une autre question.
C'est une autre question.
Non, c'est une autre question. Oui. Là, on a une question, Dieu promet quelque chose. Dieu a dit, il mourra avant 50 ou 100 ans. Ça se passe pas comme ça. Donc, il y a un problème. Tu comprends? S'il meurt pour une, si un sadique qui meurt, c'est une autre question. Vous voyez la question? C'est-à-dire maintenant qu'on a expliqué que le juif est très particulier, il a été conçu d'une manière particulière, on a expliqué les rouages, d'accord? Il a été conçu d'une manière profonde, il a été conçu d'une manière fragile, que il faut toujours un lien, une corde qui nous attache avec le haut, et que la moindre avéra qu'on fait va secouer cette corde. Il y a des avérotes carrément qui vont faire sauter la corde. Donc ça veut dire que si elle saute vraiment, on doit mourir. La personne doit mourir physiquement, pas seulement spirituellement. Comment ça se fait qu'on voit que dans les faits, ça ne se passe pas comme ça? Donc il nous manque un détail, il nous manque un élément.
Ça n'a pas sauté vraiment.
D'accord? Donc elle n'a pas sauté. Donc si elle n'a pas sauté vraiment, alors est-ce que vraiment on a fait une avéra? Est-ce que vraiment une avéra c'est grave? Bah oui, parce que si après tu commences à jouer avec vraiment, pas vraiment, on s'en sort plus.
Surtout tu vas dériver.
Bah oui. Nous on croyait que c'était clair, carrel, ça veut dire il meurt. C'est pas qu'on veut qu'il meure. C'est qu'on veut qu'on cherche une certaine cohérence dans la Torah. Quand la Torah te dit quelque chose, si la Torah te dit il meurt spirituellement, il n'y a pas de problème, j'accepte. La Torah t'a pas dit ça. La Torah t'a dit, il meurt. Après, il meurt pas, dans les faits aujourd'hui. Donc, il nous manque un élément. Et à page 190. Alors, c'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer dans le chapitre 6, qui est un chapitre très intéressant, qui en fait, on va essayer d'expliquer la différence qu'il y a entre la Galoute et l'époque du Beit HaMikdash. On va essayer d'expliquer que quand on est dans l'époque de la Galoute, la manière comment Akadosh Baruch s'occupe du Ham Israël est complètement différente. On va comprendre beaucoup, beaucoup de choses dans ce chapitre. Beaucoup de choses. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui font beaucoup d'avérot, qui sont très riches, etc. Beaucoup, beaucoup de choses.
D'accord ? Oui, j'aimerais savoir.
Ah oui, des questions qu'Yakov se pose depuis très longtemps. D'accord ? Bon. Omnam, cependant.
Mais quand même.
On n'a pas vraiment répondu. Et la réponse, il n'y a pas vraiment de réponse en réalité. Bon.
Pas vraiment de réponse. Mara a dit pas vraiment de réponse.
Il paraît qu'il y a un élément de réponse.
Quand même. Mara a dit que Hachem, il dit, je favoriserai qui je veux favoriser. Afalpi, bien qu'il ne le mérite pas.
Mais non, mais Dieu, il voit sur le long terme.
Mais sauf que là, Admor HaZaken, il y a une question beaucoup plus forte.
Il voit sur le long terme.
Admor HaZaken, il y a une question, il dit qu'a priori, Dieu se contredit. Puisque Dieu, il dit, il doit mourir et il ne meurt pas.
L'Okacher.
Bah oui, il y a une question, là. Il y a une question.
Il a besoin de lui.
C'est comme, si je te dis, si tu lâches la bouteille, elle va se casser. Donc moi, pour moi, elle va se casser. Je lâche la bouteille et elle se casse pas.
Sur un
on considère
donc je dis que mince, il y a un problème.
Priori, on peut considérer
attends une seconde, tu comprends oui, Dieu dit, tu lâches la bouteille, résultat direct, ce n'est pas une punition. La bouteille doit se casser.
Oui, comme ça, c'est tombé sur mon pied.
D'accord. Là, qu'est-ce qu'on voit? On lâche la bouteille, les gens qui font d'Averot, son Khayef Karet, ils ne meurent pas. Donc, ça veut dire qu'il nous manque un élément. Alors, justement, le coussin, comme David veut dire.
Non, mais oui. Le fait qu'on avait dit qu'un homme, quand il faisait une Avera, on avait dit précédemment, seulement qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, il y avait rouage.
Mais ça change rien.
Si, ça change tout.
Bah, pas du tout.
Si.
Ça change rien.
Si quand je fais une avéra, je n'ai vraiment pas conscience.
Mais ça ne change rien, puisque c'est pour ça que je donne l'exemple de la bouteille.
Tu l'as pas vraiment laissé tomber.
Mais bien sûr que je l'ai laissé tomber. Quand j'ai fait une avéra, celui qui a mangé du Hametz à Pessah, il a mangé du Hametz ou pas? Quoi? Il a mais mangé ou il a pas mangé? Quoi, c'est pas ça?
Celui qui est pleinement conscient de ce qu'il fait.
Mais pas du tout.
Et qui fait l'avéra.
Mais pas du tout. Alors dans ce cas-là, tu fausses toute la Torah si tu parles comme ça.
Ah mais ça existe.
Parce que dans ce cas-là tu vas dire moi je mange du Hametz à Pessah,
mais pas du tout. Je pas la
j'ai des kavanot que c'est de la matzah.
Je pose pas la Torah. Je reprends ton argumentation.
Mais ça change quoi hein. Oui mais encore une fois, en quoi ça répond à la question? Ça répond pas à la question. Puisque si la Admor HaZaken dans le chapitre 5 a expliqué que finalement le fait qu'une personne est Khayaf Karet, il y a un système, c'est comme un fil. Il y a une partie du fil qui est explosive. Tu coupes, ça fait tout sauter. Et c'est même pas une punition, c'est un résultat direct. Retenez bien ce que je suis en train de dire. C'est pas une punition, c'est un résultat direct de nos actes.
Oui.
Donc puisque c'est un résultat direct de nos actes, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont fait la même chose, qui ont lâché la bouteille et qu'elle ne s'est pas cassée?
Oui, donc à quoi on parle?
Mais ça change pas.
C'est pas mal d'intention aussi qu'on va voir.
Mais ça change pas l'intention.
C'est l'enquête qu'on parle.
Encore une, c'est pour ça, encore une fois, je répète. Écoutez bien mon exemple.
Ça dépend de la hauteur.
Oui. Je vais finir par la lâcher, la bouteille.
Ça dépend de la hauteur,
c'est dommage. Tu peux très bien lâcher, elle se casse pas.
Hein, remarque si elle est vide et que tu la lâches.
Elle peut très bien se passer de passe café.
Tiens,
merci. Je vais dire là.
Tu veux pas?
Je sais pas qui veut.
D'accord, tiens.
Un juif qui sait pas qu'il est juif et fait une faute qui dit Khayaskaret. Il se passe quoi?
Non,
un juif qui sait pas qu'il est juif.
Ouais.
Ça change pas normalement.
Ça change pas.
Ouais. Bah oui. Pourquoi ça devrait changer?
Bon, alors, il s'aperçoit qu'il est. Alors, il s'aperçoit qu'il est juif.
Ouais.
Il y a pas de
teshuva
pour lui alors.
Non.
Alors, il sert à rien de faire des mitzvahs, ça sert à
encore une fois. Là, je parle pas de teshuva, pas teshuva.
Si tu le tues,
je répète ma question.
Mort,
là, il faut bien comprendre la question de Morazakel. J'ai lâché la bouteille. D'accord. Maintenant, je vais arriver au tribunal céleste, on me pose la question, on va me dire pourquoi t'as lâché la bouteille. Je vais dire, écoutez, je savais pas, etc. On peut me dire, bon, circonstance atténuante, vous êtes quitte. C'est pas ça la question de Morazakel. Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce qu'on va faire en haut de lui? Ça, on a expliqué dans le point de Tania. Non. Là, on parle de l'impact de la avéra. On parle pas de la punition, on parle de l'impact de la avéra. Une personne a fait une avéra, il a lâché la bouteille, elle doit se casser. Maintenant, est-ce qu'on va le punir pour ça, ou pas? Ça, c'est une autre question. La question est-ce que la bouteille va se casser ou pas? C'est ça que je dis, il faut bien faire la différence entre le résultat de nos actes et la punition. Sérieusement, la punition, on le punira pas peut-être. Il dit, c'est pas de sa faute, miskin, il est né dans une situation, bon, d'accord. Mais là, la question, c'est comment ça se fait que la bouteille se casse pas? Dieu dit, une avéra sur laquelle on est chayav karet. Si on l'a prévenu, on doit le tuer. Si on l'a pas prévenu, mais qu'il savait que c'était interdit, ou bien même s'il savait que c'était interdit, Khayav Karet a expliqué à l'Edmour Azaken, ça veut dire que le fil a été coupé. Donc puisque le fil a été coupé, il devait mourir à 50 ou 60 ans. Dans les faits, les choses ne se passent pas comme ça, aujourd'hui en tout cas. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que la Torah a changé aujourd'hui?
Non, parce qu'on est en galoute.
Pourquoi aujourd'hui?
Et alors?
En galoute, quand on fait une avéra, c'est pas la même que si on...
Mais pourquoi c'est pas la même?
Mais
le fil, c'est le même.
Est-ce que ça veut dire en plus que dans certains cas, ça va s'appliquer, dans d'autres cas, pas?
Ah bah oui, c'est ça la question. Donc c'est très dangereux de dire ça.
C'est ça. On voit que ça se passe parfois.
Alors on va voir ce qu'il va expliquer à la Bourazakel. On va prendre ensemble la page 190. D'accord.
On a bien posé le problème.
Donc maintenant qu'on a bien posé le problème, comme dit Yaakov, d'accord. Maintenant on va prendre la page 190, Perek Vav, et on va essayer de développer ça dans les mots de Bourazakel. Omnam, cependant, ce qu'on a expliqué dans le chapitre 5, que c'est très technique. Il y a un fil qui est composé de 613 fils, et qu'il y a certains filaments de ce grand fil qui sont, de cette corde, qui sont explosifs et qui font tout sauter. Donc c'est technique, il n'y a pas où aller. Ça, dit l'Admor HaZaken, Zehu Bizman, Shayu Israël, le Madriga Aliona. C'était à l'époque où les juifs étaient à un niveau plus élevé. C'est-à-dire, que Shaita Ashrina Shora Beisrael Levet Amigdash. Écoutez bien jusqu'à la fin. Lorsque la Shrina résidait dans le peuple juif, dans le Bet Amigdash. Ça veut dire que la Shrina résidait en nous par le Bet Amigdash. Et alors, quel rapport avec le Bet Amigdash maintenant? Quel rapport entre ma corde et le Bet Amigdash? Ve'az à ce moment-là. Lo hayu mekablim chayut le goufam, rakaliede nefesh elokit levada. Extraordinaire ce qu'explique le Morazaken. Il dit à l'époque du Bet Amigdash, l'énergie physique du corps, était obligée de passer par l'âme divine. C'est-à-dire que même l'âme animale, l'énergie de l'âme animale était obligée de passer par l'âme divine. C'est-à-dire en d'autres termes, qu'est-ce qui décidait, est-ce que je vis ou je ne vis pas? D'accord? Ça devait passer obligatoirement par l'âme divine. En d'autres termes. Miprinat, pnimiyot hashefa, shimashpia ensof varuchu alayde shemavaya varuchu canal. Ça veut dire que l'énergie devait passer obligatoirement par le canal profond, le canal de l'inspiration, le canal de pnimiyot, comme ce qu'on a expliqué, avec yut, ke, vaf, ke, avec toute la structure qu'on a pu expliquer, la structure du business plan. D'accord? C'est pour ça, explique le Morazaken, puisque c'était comme ça, que même l'énergie physique du corps, elle devait passer par la neshama, par la nefesh elokit. Donc, elle était dépendante à 100% de la Nefesh Elokit. Donc, si tu flingues la Nefesh Elokit, excusez-moi du terme, tu as flingué aussi le corps. Il n'y a pas où aller. Ça, c'était à l'époque. À l'époque, l'énergie du corps, même l'énergie du corps, passait directement par l'énergie de l'âme divine.
Bon, pourquoi c'est pas immédiat, alors?
Attends.
Et qu'on doit attendre que...
Ça en avait expliqué. On a expliqué il y a deux semaines, on a expliqué parce que il y a un principe de réchimou. Il y a un principe de trace qui reste dans le corps. que le corps peut vivre jusqu'à l'âge de 50-60 ans. Et après, à 50-60 ans, le corps passe à un nouvel épisode, et donc là, ce nouvel épisode, il ne peut plus tenir avec les résidus de ce qu'il y avait avant. Les résidus d'énergie, les restes d'énergie. Tout le raison explique, d'accord.
C'est pour ça qu'il vieillit, quoi, en fait.
Non, je dis pas qu'il n'y avait pas d'âme animale. Il y avait un Yetzirara. Mais même l'âme animale était alimentée par... est alimenté par l'âme divine. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire, si vous me regardez deux secondes, ça veut dire qu'on a Akadosh Baruch Hu, d'accord, qui va communiquer avec nous par le canal de Yud-Ké, Vav-Ké, hein, comme on a pu expliquer, avec le développement du plan, etc., dans la tête, etc., pour arriver jusqu'à l'âme divine, et l'âme divine transmet à l'âme animale, et comme ça, on vit. Donc celui qui a coupé au niveau de l'âme divine, parce qu'il a par exemple fait des rêves carrettes, s'il a coupé au niveau de l'âme divine, bah, automatiquement, l'âme animale qui est en dessous, elle tient plus à l'aussi. D'accord ? Donc il n'y a plus d'énergie. Donc elle va garder un petit peu les restes d'énergie jusqu'à 50 et 100 ans, mais après ça saute. Après ça saute, après c'est fini. D'accord ?
Très bien.
Ah, mais... La rache, yardou madrigatam, après que les juifs sont descendus de leur niveau. Et alors ? Vegarmou bemaseem, sot galout ashrina. À cause de nos actions, on a entraîné le fait que maintenant la shrina est en exil. Ça veut dire quoi ? Comment shikatoub, comme c'est écrit, ou pish echem, shulcha imechem. Comme c'est écrit, le prophète il dit, à cause de vos fautes, votre mère a été renvoyée. C'est qui notre mère, d'accord ? Notre mère, c'est la Shrina. D'accord ? La Shrina, c'est notre mère. Ça veut dire quoi qu'elle a été renvoyée ? Ça veut dire que la Shrina a un lien, la Shrina, quelque part, elle dépend du Am Israël. Et nous, en faisant des Averot, on a tellement fait des Averot qu'on a viré la Shrina. D'accord ?
La vodka, c'est top pour
vous. On est déjà au whisky.
Eh, t'es Sfarbad ou t'es...
La kippa Sfarbad.
Hein, va.
Oh là, je suis en avance.
Salut.
Oh la lâche.
Allez, faites une place, faites une place.
Bien, bien,
faites
bien, une bien. Place. Pourquoi tu renies tes origines, c'est honteux.
Ça y est, nous, ça veut dire...
Ça pour la bouffe, pour le reste. Je veux bien que tu renies, mais là, non. Bon, donc, attends, c'est comment maintenant, attends, je sais pas.
D'accord, quoi. Alors, attends, expliquez. Daïn, donc je répète. Comment ça se fait qu'à l'époque du Beth Amikdash, la Gemara raconte que ça se passait mamache comme ça ?
Tout se passait par
d'accord ?
Ça passait par la
Mikdash. Qu'une personne qui était Khayav Karet, d'accord ? Il y avait des gens qui mouraient à 50, 60 ans et tout le monde savait pourquoi ils étaient morts.
50, 60 d'accord ans à l'époque, c'était déjà pas mal.
Oui. D'accord ? Non, ce qui est, non. Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, les gens vivaient en moyenne 70-80 ans. C'est une bracha extraordinaire qu'il y avait à cette époque-là. D'accord. Les gens, ils avaient une bracha, tout le monde était riche. Tout le monde était riche. D'accord ? Ishtachat Gafno et Ishtachat Nenato. Chacun avait accès à la propriété. Chacun avait de l'argent. Chacun exportait. Il y avait de l'argent. Ça manquait pas d'argent. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y avait une bracha. À l'époque du Beth Amikdash, on voyait clairement que quand Akadosh Baruch Hu dit celui qui fait les mitzvot, Venatati Esev Vesadecha, je donnerai la récolte dans ton champ et tu mangeras et tu seras rassasié, on le voyait clairement, physiquement. On voyait clairement. Le Bnei Israël, il savait que lorsque la pluie ne tombait pas, ça veut dire qu'il fallait rajouter dans les mitzvot. En rajoutant les mitzvot, la pluie tombait. Aujourd'hui, pas comme ça. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, parce qu'à l'époque, l'énergie qui passait au âme Israël, elle passait tout au travers de l'âme divine. Avant d'arriver à l'âme animale, ça passait par l'âme divine. Donc naturellement, dès qu'il y avait un problème dans le dernier maillon, on comprenait qu'il fallait chercher plus haut. C'est où plus haut ? L'âme divine.
C'est ce qu'on fait aussi maintenant.
D'accord ? Oui. C'est ce qu'on fait maintenant, sauf que maintenant, on n'a pas les mêmes résultats. Alors, il y a des gens qui font des pilotes et des pilotes et ça marche pas. Alors ça veut dire quoi ? Comment expliquer ?
C'est la question de Jacob, tu vois, tu veux pas en conclure que...
Attends, c'est pas comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bien sûr c'est pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui c'est pas comme ça. Aujourd'hui t'as plein de gens qui font plein de mitzvot et qui sont à la dèche.
Bonjour, j'ai lu une lettre sur le rabbi, on lui demandait quelqu'un qui a des problèmes de parnassa, etc. Il conseille, quand on a des problèmes de parnassa, de pas trop s'en préoccuper et d'ajouter dans les mitzvot.
C'est sûr, tu as raison. C'est sûr. Mais ça ne change pas que ce qui est écrit dans le schéma, qu'on lit tous les jours. Dieu dit, si tu vas écouter mes mitzvot, qu'est-ce que Dieu dit ? Je donnerai la récolte dans ton champ. Donc ça veut dire que si je fais les mitzvot, si je suis religieux, Dieu me doit donner la récolte dans son champ, en son temps. C'est pas forcément ce qui se passe. On voit pas une différence sur le terrain entre ceux qui font les mitzvot et ceux qui ne les font pas. Au contraire même. Donc il y a un problème dans le système.
La grande question.
C'est quoi en son temps ?
D'accord. Ah oui, il y a un problème.
Oui.
À la limite, je veux bien qu'on reçoive les deux la même chose, mais s'il reçoit plus que moi grâce à sa vérote, il y a un problème. On est d'accord avec la question ? Il y a un problème, c'est pas logique.
Vous croyez pas que vous allez avoir réponse, hein ?
D'accord. À l'époque du Beth Amikdash, c'était mamache comme ça. C'était comme ça.
Il n'y avait pas de réchaîne, mais
d'accord ? Non, ça n'existe pas. À l'époque du Beit HaMikdash, il n'y avait pas de Rechaïm riche. Un rachat, il souffrait. D'accord, il fallait souffrir pour être un rachat. Le gars, il veut être un rachat, il dit, ah, je le paye cher, mon kiff. Aujourd'hui, c'est le contraire.
Aujourd'hui, c'est quoi?
Donc, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui a changé? D'accord.
C'est nous qui avons changé.
À l'époque, les gens, c'était un effort d'être un rachat. Il fallait...
Combien il y en a eu, alors?
Quoi?
Quel intérêt ils avaient, alors?
Parce que exactement, ils voulaient faire un kiff.
Comment
ça se fait que lorsqu'une personne veut faire un kiff, il est prêt à payer très cher? Il sait que ça va le coûter cher, mais il le fait. Parce que des fois, l'envie est plus forte.
Même matériel.
Pas du tout. Il dit, bon, je vais perdre de l'argent, mais je vais kiffer. Dieu lui a interdit l'adultère. Il a envie de l'adultère maintenant. Il veut. Il sait qu'il va souffrir, mais il fait. On verra après, on paiera après.
Il avait le droit à l'époque.
D'accord.
Il paiera après.
Adultère.
Il a le droit d'avoir plusieurs femmes.
Polygamie.
Non, c'est pas adultère.
C'est pas bien.
Pourquoi c'est pas bien? C'est assourd.
Assourd.
Pour les gens qui met.
Bon, ça c'est un autre sujet. Alors.
Intéressant, mais.
On sait que c'est pas grave.
Mais si t'habites en Afrique.
Déjà, si c'est une femme qui n'est pas mariée, en général elle est Nida. Et si elle est Nida, c'est une histoire de la Torah.
Mais d'accord.
En tout cas, c'est quoi ça?
Mais si par exemple il a vécu dans un pays polygame.
Halakhiquement parlant, ça serait mieux avec une Goya.
Mais
selon la Kabbalah, avec une Goya, c'est beaucoup plus grave. Parce que ça veut dire qu'un juif a envoyé de sa semence, il a pris de sa force, il l'a envoyé dans le corps d'un Goy. D'accord, c'est encore beaucoup, beaucoup plus grave. Donc, quoi qu'il en soit, il n'y a pas Wallet.
Il n'y a pas sorti. Il n'y a pas Wallet. Ouais.
Deux
choses. On continue.
Moralité.
Donc, on a expliqué tout ça, c'était à l'époque du Beit HaMikdash. Mais lorsque on est descendu de notre niveau, et lorsqu'on a renvoyé la Shrina, les messieurs, retournons au Tania. Lorsqu'on a renvoyé la Shrina, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé dans la galoute? Dehaïnou, ça veut dire. Alors, je ne sais pas quelle ligne on est ici. Dehaïnou.
Troisième ligne.
Alors. Fin de la troisième ligne. Dehaïnou. Fin de la troisième ligne, Pashta Dikav. Dehaïnou, ça veut dire. Sheyarda. Ashpaat Prinat He Tata Anal. Qu'est-ce qui est descendu? Ce qui est descendu, c'est le He d'en bas. Nous, on avait à l'époque une structure qui était très claire. Yudke, Vavke, tout était très clair. D'accord? Le dernier He, c'était le dernier maillon. Il dépendait directement de nos actions, de nos midot, etc. Quand on a fait d'Averante, tellement on a fait d'Averante quand on avait le Beit HaMikdash, que le dernier He d'en bas, il est descendu. Et alors, écoutez bien. Venishtal Shela, mi Madrigal, et Madrigal, et Matamata. Il est descendu tellement bas. C'est-à-dire comme ça, l'énergie qui alimentait le Ham Israël, à l'époque, l'énergie qui alimentait le Ham Israël était dans un niveau plus élevé. Et tout le monde le sentait, on sentait que les Bnei Israël c'était une gamme au-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a fait une Avera? C'est que cette même énergie, elle reste toujours une gamme au-dessus. Mais elle est descendue en bas, à tel point que maintenant cette énergie est au même niveau que les autres goyim. C'est-à-dire qu'à tel point que maintenant tu vois un juif et un non-juif, tu vois pas vraiment de différence au niveau de la qualité de l'énergie qu'ils reçoivent. C'est-à-dire encore une fois, ça veut pas dire, on n'est pas en train de dire ici qu'aujourd'hui en exil, le juif et le non-juif sont les mêmes. Chas v'shalom, on n'a jamais dit ça. Parce que le non-juif, d'accord, il a démarré d'ici, d'accord, on va dire il a démarré du niveau 99 et il est arrivé à 100. Le juif, il a démarré de 1. Mais d'habitude, il était à 50. Mais il est descendu, maintenant il est à 100 comme l'autre. D'accord? Ça ne change pas que chez le juif, il y a toujours la corde qui est descendue de 1 à 100. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Écoutez bien. C'est que lorsqu'on va en exil, c'est toute la corde qui descend avec nous. Ça veut dire comme ça. Imaginez-vous qu'avant, on avait une corde qui allait de 1 à 50. D'accord? Donc le 1, c'est Akadosh Baruch Hu, 50, c'est nous. Donc le 1, c'est la Shrina, 50, c'est nous. Lorsqu'on est descendu avec l'exil, donc on est arrivé jusqu'au niveau 100, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu est descendu au niveau 50, et nous, on est arrivé au niveau 100.
C'est relatif.
Ça veut dire que Dieu aussi descend avec nous. C'est ce qui explique qu'on dit que Imo Anochi Betzara, Dieu dit, je suis avec vous et je souffre avec vous. Parce que la Shrina descend avec nous. Ça veut dire comme ça. À l'époque, avant, à l'époque du Beth Amikdash, on était une gamme au-dessus. D'accord ? À l'époque du Beth Amikdash, si vous voulez, on avait notre énergie qui allait, c'est-à-dire comme ça, on va essayer de simplifier. On va dire que l'âme animale, notre corps, la vie de notre corps, est au niveau 100. C'est au niveau 100, c'est en bas. D'accord ? À l'époque du Beth Amikdash, comment ça se passait ? Chez les goïms, bon, on démarre à 99, on arrive à 100, on reste là. Chez les juifs, la shrina descendait de 1 à 50, et après, c'est le juif avec ses mitzvot qui faisait descendre de 50 à 100. Ça veut dire que sa vie dépendait directement des mitzvot qu'il faisait. S'il faisait pas de mitzvot, eh ben, il n'y a personne qui va descendre de 50 à 100, donc il n'y a rien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que l'énergie divine descend déjà jusqu'à 100. Donc puisqu'il y a des gens, elle descend jusqu'à 100, donc extérieurement, il n'y a pas vraiment de différence entre un juif et un non-juif, par rapport à l'énergie qu'il reçoit.
T'es en train de dire qu'on a acquis déjà toutes les mitzvot ?
Non, pas du tout. Je suis pas du tout en train de dire ça. Je suis en train d'expliquer que l'énergie divine est tellement descendue, à tel point qu'aujourd'hui, quand tu vois un juif et quand tu vois un non-juif, par rapport à leur corps, tu ne vois pas de différence. À l'époque, même par rapport à leur corps, même par rapport à la manière de réfléchir, on voit tout de suite une différence. Aujourd'hui, plus tellement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils sont au même niveau. La source n'est pas la même. Il n'y a rien à voir. Mais le résultat est le même. Les deux, ils sont au niveau 100, les deux, ils sont ensemble.
D'accord.
Kma marazal, comme les chachamim disent, en lecha esed bilmata, shen lo mazal khule. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il veut expliquer ici ? D'accord ? Donc, la particularité du Ham Israël, c'est quoi ? C'est quoi la particularité du Ham Israël, même si quand on est comme ça ? Vous avez bien compris ce que je voulais expliquer ? Avec 1, 50, 100. La particularité, maintenant, on est tous les deux au niveau 100. Le goy et nous. Alors, c'est quoi la différence maintenant, puisque on est tous les deux au niveau 100 ?
D'accord.
La particularité, non. La première particularité, c'est la particularité qu'on a expliquée dans le chapitre 5. C'est que chez le goy, c'est extérieur, alors que chez nous, c'est plus profond. C'est-à-dire que les deux, on arrive au même résultat. Sauf que chez nous, Akadosh Baruch Hu s'occupe plus de nous. C'est-à-dire que, je sais pas comment vous expliquer, le roi, il a un serviteur et un fils. Le fils a tellement fait de gaffe que maintenant le père, il va traiter, le roi, il va traiter son fils comme son serviteur. Il traite au même niveau. C'est au même niveau. D'accord ? Il traite au même niveau, mais ça ne change pas que le fils, c'est le fils du roi.
C'est le fils.
Pas comparer le fils et l'esclave. Mais, au niveau du résultat, il le traite de la même manière. Au fils, il dit, allez, fais ci, fais ça, il le traite comme un esclave. Donc il le traite comme un esclave, mais c'est pas un esclave. On est un petit peu dans cette situation.
Oui, après, là, si on veut la situation, ça serait pire que le serviteur.
Non, là on est au même niveau que l'égoïde. D'accord ? Là on est au même niveau que l'égoïde. C'est ce qui m'explique ici là de Morazaken. Ça veut dire que c'est descendu, mais finalement,
bon,
qu'est-ce qui s'est
pas,
passé ?
On est bon,
d'accord ?
On est inférieur, quoi.
Non, c'est pas ça, mais...
Au niveau du traitement.
Ça veut dire que...
On est inférieur, ce que je veux dire.
Ah, oui, on est inférieur au niveau du traitement, les souffrances, machin.
Les souffrances,
ça veut dire comme ça. Ouais. Ça veut dire que si je reprends l'exemple du roi qui a un fils et qui a un esclave. Normalement, en règle générale, il s'occupe beaucoup mieux du fils que du côté de l'esclave. Oh, le fils, c'est autre chose. Là, maintenant, le fils est tellement gaffé que le roi le traite, ça veut dire au niveau du résultat, il va le donner exactement comme l'esclave. Ça, c'est au niveau du résultat. Mais au niveau du lien qu'il y a entre les deux, ce sera jamais le même, parce que le père, il montrera toujours à son fils, tu es mon fils. Même s'il lui donnera au niveau du résultat, il lui donnera la même chose que l'esclave. Mais au niveau du contact, ça n'a rien à voir. Un, c'est superficiel, ça c'est l'esclave, et l'autre, c'est profond. Mais au niveau du résultat, ils ressemblent à la même chose.
Oui,
c'est un petit peu notre situation aujourd'hui.
N'empêche que l'énergie, quand elle arrive, elle passe quand même par le spirituel avant de passer par le physique.
Oui. Mais sauf que maintenant, elle est directement au matériel. C'est-à-dire que ça ne doit pas passer par le spirituel pour arriver au matériel. Alors, on va faire encore quelques lignes, après on va développer, n'inquiétez pas. Ve'azai, à ce moment-là, Yachol, Gam achote ou fauchei Israël, les kabel chayut le goufam, venafshot, venafsham abemiot, que mosher balechaim amash. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que, dorénavant, je te sors les chayim. On garde la bouteille pour la semaine prochaine.
Je vais bien, Shabbat.
Peut-être qu'il clève.
Merci,
il n'y
a pas de
problème.
Mercredi. Chayim.
Chayim.
Pour faire des blagues.
Vazai, à ce moment-là, Yachol gam achote ou poche Israël. Je l'ai déjà lu. Donc qu'est-ce qu'il explique ici ? Ce qui se passe, c'est que étant donné que l'énergie divine est descendue elle aussi au niveau 100, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, donc ce qui se passe, c'est que l'énergie qu'on va recevoir va être exactement la même énergie au niveau du résultat que l'énergie qu'un goy va recevoir. Est-ce que vous me suivez ? Je pense que l'exemple du fils du roi et de l'esclave est un très bon exemple. Et là, on voit clairement que le contact qu'il y a entre les deux n'est pas les mêmes. Il n'y a rien à voir entre le fils et l'esclave. Mais concrètement, au niveau du résultat, ben, comme le père a puni son fils, il dit écoute, t'as trop gaffé, etc. Donc au niveau du résultat, les deux vont recevoir exactement la même chose. Que moi, je suis Katou, comme c'est écrit.
Le problème, c'est que tous les fils sont tous mis dans le même panier, finalement.
Oui, bien sûr.
Pourtant, il y en a toujours un.
Ah oui, mais ça ne change pas.
Un dans le lot.
Il y a une famille, il y a une notion de famille.
Bon. Oui, mais bon.
Non, une notion de famille.
C'est surtout si le fils y retrouve grâce aux yeux du roi, ce sera le fils, mais si le oui. caractère, quoi qu'il fasse, ce sera le
exactement, caractère. Exactement. C'est bon. Mais c'est pas seulement ça, c'est que ce qu'on va expliquer ici, c'est que même quand le père est fâché avec son fils, ouais. et qu'au niveau du résultat, il lui donne comme l'esclave, comme il y a quand dit, peut-être moins que l'esclave. Mais ça change pas qu'au niveau. Ça, c'est... Au niveau du résultat, tu as raison, ils reçoivent la même chose, même le fils reçoit peut-être moins. Ça, c'est au niveau du résultat. Mais au niveau du contact qu'il y a entre les deux. Le contact qu'il y a entre le fils et son père ne sera jamais le même contact qu'il y a entre le roi et son esclave. Ce ne sera jamais le même. C'est-à-dire que même si au niveau du résultat, il lui donne la même chose, ce ne sera jamais la même chose. Ce qui veut expliquer ici l'Admor HaZaken. D'accord ? Alors, avec ça, l'Admor HaZaken veut répondre à la question qu'on a posée au début du cours, qu'on avait posée au début du chapitre 4. Comment ça se fait que celui qui transgresse une avéra ou qui est Khayaf Karet, comment ça se fait qu'il peut continuer à vivre ? Maintenant, on comprend la réponse à la question. C'est que avant, à l'époque du Bet HaMikdash, l'énergie, elle arrivait au niveau 50. Et après, nous, avec nos mitzvot, on devait la faire descendre du niveau 50 au niveau 100. Donc si tu ne fais pas de mitzvot, l'énergie reste bloquée, donc ça ne descend pas. Aujourd'hui, ce qui a changé dans la galoute, on va dire que c'est un bienfait pour nous en vérité, c'est heureusement que quelqu'un va enlever les choses comme ça, c'est qu'il envoie directement l'énergie au niveau 100. Donc, on a très peu de marge. Ça veut dire que qu'on fasse les mitzvot ou qu'on fasse pas les mitzvot, l'énergie est là.
Ça veut dire qu'on a acquis les mitzvot.
D'accord. Pas du tout.
Non.
Ça veut dire que notre vie ne dépend plus vraiment des mitzvot.
On a fait des chouvas.
Qu'est-ce que vont changer les mitzvot ? Les mitzvot vont avoir un impact extérieur. Comme par exemple, elles vont récupérer des étincelles, elles vont récupérer d'autres choses. Mais ça n'aura pas forcément un impact sur notre vie. Et c'est valable aussi. Ça explique aussi comment ça se fait. Écoutez bien la réponse à la question. Ça explique comment ça se fait qu'il y a des gens qui font beaucoup de mitzvot et que ça leur amène pas de la richesse.
C'est plus de même valeur, les mitzvot.
Vous comprenez la réponse à la question? Parce que, de toutes les façons, la marge des mitzvot aujourd'hui, c'est pas pour faire descendre. Parce que ce qui est descendu, c'est déjà au niveau 100. Tu peux pas faire descendre plus que ça. Ce que Dieu t'a envoyé, c'est ce que tu recevras. Alors à quoi servent les mitzvot et la vérote? Les mitzvot et la vérote, c'est un rôle extérieur.
Oui, mais ça c'est
d'accord.
Côté
c'est un rôle extérieur. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est pour récupérer des étincelles, c'est pour avoir un salaire plus tard au Gan Eden, voilà. etc.
Ah,
mais
d'accord.
Ça n'a pas un impact direct sur ma vie, parce que ma vie est déjà gérée, parce que Dieu a déjà fait descendre l'énergie jusqu'au niveau 100.
C'est pour faire venir ma chère surtout, non?
Donc du coup, mes mitzvot et ma vérote ne vont pas changer grand chose à ma vie.
Il y a quand même des mitzvot
à ta vie.
Ne vont pas changer grand chose à mon physique.
Ouais. Donc ça répond pas à la question pourquoi alors.
D'accord,
on repart à zéro.
D'accord. Par exemple, je donne un autre exemple. Par exemple, Dieu il dit, d'accord, celui qui honore son père et sa mère, il vivra longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il vivra longtemps? Pas forcément.
Ouais.
Pas parce que c'est faux. Parce que aujourd'hui, l'impact du mitzvah n'aura pas forcément un impact sur le matériel, puisque de toute façon l'énergie divine elle descend déjà au niveau 100. Après, la marge est très légère. Après, le rôle d'une mitzvah, c'est complètement autre chose. C'est le rôle d'une mitzvah après, c'est d'avoir un impact sur le monde, de mériter le Gan Eden, d'amener Mashiach. C'est des rôles, d'autres rôles. Avant, le rôle d'une mitzvah, c'était pas shoot, de faire un réceptacle pour recevoir. D'accord. Tu fais pas un réceptacle, tu reçois pas.
Mais dans le cas qui a cité d'accord. justement de l'allongement de la vie, d'accord. on dit bien
attention, que
c'est
alors, je vais bien attendre, je te seconde quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'une mitzvah n'a aucun impact sur notre vie. Parce qu'on peut dire, par exemple, pour simplifier, on pourrait dire que voilà, aujourd'hui, c'est 99 à 100. Voilà, avec une mitzvah, je vais faire descendre un petit peu. Mais c'est rien à voir par rapport à ce qu'il y avait avant. Avant, la vie dépendait des mitzvot et des averot. Donc c'est pour ça, celui qui faisait des mitzvot, il recevait l'argent, pas de mitzvot, pas d'argent. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, de toutes les façons, l'énergie descend déjà jusqu'au niveau 100. Elle descend déjà jusqu'à là-bas. Ou 99, si vous voulez, allez. Donc, notre marge par rapport à ça est très légère.
Oui,
ça veut dire que mes mitzvot et mes averot ne vont pas forcément me rajouter plus de parnassa ou moins de parnassa. D'accord. Par contre, qu'est-ce qu'on fait aux mitzvot? D'accord. Les mitzvot vont peut-être... Alors, justement, les mitzvot vont avoir peut-être un impact. Par exemple, quand je fais une mitzvah, alors c'est un petit peu comme si je suis en train d'intercéder à Kadosh Baruch Hu, lui demander d'envoyer plus d'énergie d'en haut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est complètement notre rôle. Avant, je répète encore. Avant, d'accord. Non, mais il faut que je rajoute encore ce... D'accord. Parce qu'à chaque fois, je rajoute un point. À l'époque, d'accord, on va dire que l'énergie divine est arrivée jusqu'au niveau 50. Et nous, pourquoi on faisait les mitzvot? C'était pour faire descendre de 50 à 100. Tu fais pas de mitzvot, ça descend pas. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, quand je fais une mitzvah, l'énergie que Dieu devait m'envoyer est déjà descendue au niveau 100. Mais par contre, quand je fais une mitzvah, peut-être que ce que je suis en train de faire, je suis en train d'intercéder à Kadosh Baruch Hu, je suis en train de lui dire, écoute, à Kadosh Baruch Hu, envoie plus d'énergie d'en haut. Vous me suivez?
Mais pourtant, on va...
Est-ce que tu as entendu, David?
Bon. Pourtant,
on... Ah, tu vois, il faut entendre.
Pourtant, on avait dit le contraire.
Chaque fois que je répète, on ajoute autre chose.
Pourtant, on avait dit le contraire. On avait dit que... Oui, mais... On avait dit que lorsque tu allais voir...
Range le iPhone et le BlackBerry.
Ouais, parce que tu trafiques des trucs. On avait dit le contraire. On a dit que lorsque tu allais voir justement un rab, tu demandais une bracha.
Oui.
C'est-à-dire que ce qui était prévu pour toi, descend réellement.
Oui, pareil.
Non, mais là, d'après ce que tu dis, c'est déjà descendu.
Non. Je dis qu'aujourd'hui, nos mitzvot ont très peu de marge. C'est pas nos mitzvot qui font descendre. Ça peut être la bracha d'un tzadik. Il a raison, Yaakov. Mais c'est pas mes mitzvot qui font descendre.
Si je fais mes mitzvot, je sais pas ça, la morale du...
Non, le rôle d'une mitzvah aujourd'hui, ça peut être, c'est un petit peu comme je vais intercéder à Kadosh Baruch Hu, je vais lui dire, écoute, à la source, t'as pas envoyé beaucoup, il faut que t'envoies plus.
Alors qu'à l'époque, je pouvais contrôler la
non,
source, à la limite.
Exactement, à l'époque, je contrôlais la source. Aujourd'hui, je ne contrôle pas la source. Aujourd'hui, la seule chose que je suis capable de faire, c'est aujourd'hui, de toutes les façons, l'énergie, elle descend déjà en bas. Mais par mes mitzvot, je dirais qu'à Kadosh Baruch Hu, écoute, s'il te plaît, envoie plus.
Donc, mon libre arbitre,
Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une relation de cause à effet, entre les mitzvot et la richesse. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
À l'époque du Beit HaMikdash, il y avait une relation de cause à effet. La mitzvah fait descendre la richesse. Aujourd'hui, la richesse descend déjà d'elle-même. À quoi va servir la mitzvah? La mitzvah va servir peut-être pour intercéder à Kadosh Baruch Hu pour lui dire, écoute, s'il te plaît, envoie plus. Mais c'est pas forcément une relation de cause à effet.
Donc j'ai moins de libre arbitre.
Sur la richesse que je reçois, oui. Ça explique beaucoup de choses que je viens d'expliquer. Ça explique beaucoup de choses parce que ça nous explique comment ça se fait qu'il y a des gens qui font des mitzvot qui reçoivent pas de richesse et des gens qui font des averot et qui sont riches. Parce qu'il n'y a pas forcément de rapport.
Il y a des gens qui font des mitzvot et qui reçoivent des richesses.
Tu as raison.
Mais si, il y a un rapport.
Donc ça veut dire que c'est pas un lien de cause à effet.
Il y a un rapport. On avait vu avec l'amour, je sais plus si c'était le petit-fils ou le petit-fils, qu'il disait que justement, celui qui faisait des averot, il était payé par le...
Ça, on va en parler après.
Attends, on a dit que
c'est le pas de
mioute, ça joue sur la parnassa de l'homme. Ou si les mezuzas sont pas cachereurs, ou il y a quatre possibilités.
Encore une fois.
Qui réduisent la parnassa de l'homme.
Mais comment ça va réduire?
C'est les mizvot.
Mais pas du tout, encore une fois. Comment ça va réduire? Ouais. Ça, je répète encore une fois mon exemple. Avant, quand je faisais une avéra, qu'est-ce qui se passait? Je coupais le pont entre 50 et 100. Mais monsieur, allez, on range les téléphones, ça y est.
C'est pas possible, ça. Tu ranges le dans le téléphone.
Incroyable.
C'est là. Allez, c'est ça rare d'aujourd'hui.
Bien sûr. Et encore, il y a ceux qui ont le Nokia, encore.
Exactement.
Aujourd'hui,
c'est pas forcément. Alors, encore une fois, par rapport à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. À l'époque, Dieu envoie la bracha pour la parnassa au niveau 50. Après, c'est à toi de la faire descendre du 50 au 100. Si ça descend pas, c'est de ta faute. Dieu t'a envoyé une grosse quantité au niveau 50. Si ça descend pas, c'est de ta faute. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, Dieu te livre déjà à ta porte, il te le donne déjà. Il demande juste de faire un keli. Par contre, quand je vais faire une mitzvah, qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander à Kadosh Baruch Hu, livre-moi plus. Ou lorsque je vais faire une avera, qu'est-ce que je vais faire? Dieu dit, bon, dans ce cas-là, je vais te livrer moins.
Ou plus.
D'accord? Ou plus, exactement. Mais ça veut dire que ça n'a pas une relation de cause à effet. À l'époque, c'est une relation de cause à effet. À l'époque, quand je faisais une mitzvah ou une avera, j'allais chercher la marchandise ou je jetais la marchandise. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, quand je fais une mitzvah, je suis en train de lécher la pâte au fournisseur, d'accord? Et quand je fais une avera, je casse les pieds au fournisseur. Après, c'est le fournisseur qui décide. Est-ce que quand même il me l'envoie ou il l'envoie pas?
Ouais.
Mais c'est pas une relation de cause à effet. À l'époque, quand je faisais une mitzvah, j'allais chercher la marchandise. Quand je faisais une avera, je jetais la marchandise. Ça n'a rien à voir. Tout a changé.
D'un côté, le niveau est moins fort parce que dans les premiers cas, tu pouvais être intéressé.
C'est sûr.
Oui, c'était plus facile avant, on dirait.
Bien sûr, c'est plus facile.
Alors que maintenant, t'as plus de mérite. Tu fais des mitzvot, tu n'auras pas la parnassa.
Oui, tu as raison.
Tu viens, et tu fais quand même.
Bien sûr.
C'est désintéressé.
Donc ça nous permet de bien comprendre comment aujourd'hui, on n'a pas vraiment une relation de cause à effet. Et comment aujourd'hui, finalement, c'est comme l'exemple que j'ai dit. Aujourd'hui, de toutes les façons, la bracha, elle descend déjà du niveau 0 au niveau 100. Elle descend déjà d'elle-même. Ça n'a rien à faire. Par contre, qu'est-ce que je fais quand je fais une mitzvah? J'essaye d'amadouer le fournisseur. Après, c'est à lui de décider. Est-ce qu'il a été amadoué ou pas?
La dernière jonction, c'est bien 99, c'est
arrivé au 100. Non, ce qu'on est en train d'expliquer. Aujourd'hui, on te demande juste de faire un keli. Faire un keli, ça veut dire, voilà, je fais ma parnassa.
Il faut faire la jonction.
Non.
On récolte le fruit.
Je récolte, moi. Aujourd'hui, je récolte. Maintenant, comment ça se fait qu'une personne qui fait beaucoup de mitzvot n'est pas forcément riche? Parce que justement, quand il fait des mitzvot, il est en train d'amadouer le fournisseur. Mais après, le fournisseur, il a ses calculs. Est-ce que, parce que peut-être le fournisseur, il dit, celui-là, il faut pas que je l'envoie plus, ça lui fera pas du bien. À l'époque, il n'y avait pas ce système-là. À l'époque, c'était technique. Tu prends, tu reçois. Tu prends pas, tu reçois pas. Donc ça change tout. C'est pour ça qu'à l'époque, c'était très technique. Celui qui faisait une avéra sur la commune de Khayaf Karet, il mourrait. Et pas où aller. Aujourd'hui, ça marche pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, de toutes les façons, l'énergie descend. Quel est l'impact du mitzvah d'une avéra? C'est, est-ce que Dieu va s'énerver ou il va pas s'énerver? Ah, après, c'est à lui de décider. C'est pas un impact de cause à effet. Donc, tout a changé. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça explique beaucoup, beaucoup de choses, cette notion-là, quand on réfléchit bien.
Donc, en gros, la galoute, elle a fait un truc bien.
En gros, non, c'est pas qu'elle a fait un truc bien. C'est que, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu a fait ça dans la galoute. Parce que sinon, on serait tous morts. Ben oui. Parce que si Akadosh Baruch Hu a dit, bon, moi, je laisse au niveau 50, allez vous chercher. Allez chercher, on essaye de monter 99, 80, on se casse la figure. Alors, tu comprends? À l'époque, tu allais pas te servir, tu manges pas. En gros, il dit, bon, je te donne à manger. Je te donne comme, de toute façon, je te donne à manger. Mais bon, si t'es gentil avec moi, peut-être je te donnerai plus. Peut-être. Peut-être tu, peut-être non. Après, c'est à moi de décider avec mes calculs. Ce qu'il a dit, Yov, il a dit qu'il veut marcher votre taille, marcher votre terrain. Après, Dieu, il dit, mes pensées ne sont pas les vôtres. Parce que, bien sûr, si maintenant tu dis que les rôles d'une mitzvah, d'une avéra, c'est d'amadouer le fournisseur. Après, le fournisseur, il a ses calculs. Tu n'en sais rien.
Il n'a pas les hypocrites.
D'accord? Exactement. Tu n'en sais rien, ce qu'il a dans la tête, le fournisseur. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était cause à effet. Je prends, je reçois. Je prends pas, je reçois pas. Ouais. C'est beaucoup plus simple. D'accord? Et c'est pour ça que le fait qu'on a fait d'Averot à l'époque, c'est beaucoup plus grave qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une avéra, on voit pas vraiment l'impact qu'une avéra a sur notre vie. On voit pas comment notre vie change suite à une avéra.
Mais pourtant, on le voit pas vraiment. On le ressent après, tout de suite après l'avéra.
Pas du tout, c'est psychologique, ça. Excuse-moi.
On n'est pas bien.
Mais t'es pas bien, parce que t'as été éduqué comme ça. Ta vie ne change pas.
Non, je ressens qu'on est
pas bien. Ta vie, je pense pas que ta part là, ça changera, suite à une avéra.
Suite à une
avéra.
C'est un ridouche, ce que tu viens de me dire.
C'est un ridouche. Encore une fois, après, si t'as énervé à Kadosh Baruch Hu, Dieu peut dire, bon...
Je ne pense pas.
D'accord? D'accord? Pas forcément.
Il te montre qu'il est là tout le temps, là.
Bien sûr que te montre qu'il est là tout le temps. Alors, encore une fois, parce que, bon, après, si t'es énervé à Kadosh Baruch Hu, ou si à Kadosh Baruch Hu, il t'aime, il peut décider de couper l'énergie en haut pour que tu le ressentes en bas. Il peut. Peut-être tu, peut-être non. T'as des gens, je peux te dire, qui font de la verreur toute la journée, et qui continuent à travailler comme si de rien n'était. Et il se passe rien du tout. Et c'est ça la question d'Admor HaZaken.
C'est dur de rendre des religieux comme
ça. C'était ça la question d'Admor HaZaken. C'est comment ça se fait? Et là, on a la réponse. La réponse, c'est parce qu'aujourd'hui, l'impact qu'il y a entre l'impact du mitzvah d'une avéra n'est pas lié forcément de manière de cause à effet à la parnassa. C'est pas comme avant. Aujourd'hui, de toute façon, la parnassa, elle descend d'elle-même. Le rôle du mitzvah d'une avéra, c'est de communiquer avec le fournisseur. Pas comme avant. Avant, c'était « tu te sers ». Tu veux pas te servir à manger, tu vas rien manger.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a le mérite de nos ancêtres?
Non.
C'est grâce au...
Ah non, pas du tout, c'est une punition, là.
Non, parce que quelque part, on a des mérites. Ou pas, de nos ancêtres.
Je vais te donner un exemple. Oui, j'ai compris la question. Je vais te donner un exemple. Imagine-toi. Imagine-toi. D'accord. J'ai compris la question. Imagine-toi que tu avais... Regarde, tu entends David. Imagine-toi que tu avais un fils d'un roi, un prince. Quand tout se passait bien, il rentrait dans le palais, dans les cuisines, il se servait à manger ce qu'il voulait, etc. Grand kiff. Maintenant, bien sûr que s'il ne se lève pas pour aller manger, d'accord, s'il ne demande pas ce qu'il veut, il ne recevra rien. D'accord? Celui-là, ça, enfin, il faut qu'il vienne en cuisine, il faut qu'il demande ce qu'il veut. S'il se lève trop tard, etc., on dit, ah, monsieur, ça y est, l'heure du repas est passée. Bon. Ça, c'est quand tout va bien. C'est-à-dire, on lui dit, voilà, monsieur, tu prends ce que tu veux, mais il faut venir à l'heure. Comme à l'hôtel. Faut venir à l'heure, tu viens, tu te sers, t'as tous les plats que tu veux, tu t'éclates. Ouais, si tu viens à l'heure, tu t'éclates. Tu viens en retard, bah tu prendras les restes.
Les restes du foie gras.
D'accord? Bon. Ça c'est quand tout allait bien. C'est-à-dire tout dépendait de l'heure à laquelle tu te lèves et si tu viens en premier ou pas.
Aujourd'hui c'est un peu comme ça.
Attends, une seconde. Ensuite, ce fils a grave gaffé, il a embêté son père. Donc qu'est-ce que son père a dit? Son père a dit, écoute, tu sais quoi, on va te prendre, on va t'éduquer un petit peu, on va te mettre dans le trou. D'accord? Mettre dans le trou, tu vas comprendre un peu ce que c'est la souffrance.
Allez.
Maintenant dans le trou, le fils. Il a qu'à crier, il a qu'à faire l'imbécile, il a qu'à raconter des bêtises. De toutes les façons, il recevra sa nourriture tous les jours à l'heure. Il en verra par la coque. Il recevra sa nourriture. Ça sera pas bon. Ça sera pas aussi bon qu'avant. Parce qu'on va le faire souffrir. Mais il la recevra. Donc la marche qu'il a, c'est quoi? C'est que s'il va embêter, s'il va être gentil avec le geôlier qui est en haut, peut-être qu'il lui dira, bon, aujourd'hui, je lui rajoute un petit quelque chose. Peut-être. Peut-être que, il peut crier dans tous les sens, celui de dire, ah, de toutes les façons, il a sa ration. C'est-à-dire que la ration, de toutes les façons, elle descend.
Mais ce fils, donc,
deux secondes, David. La ration, de toutes les façons... La ration, de toutes les façons, elle descend. D'accord ? C'est ce que je vais expliquer. C'est qu'aujourd'hui, d'accord ? C'est qu'aujourd'hui, de toutes les façons, la parnassa, elle descend. Maintenant, avec nous, avec les mitzvot et nos avérot, on a très peu de marge. La marge qu'on a avec les mitzvot et nos avérot, c'est est-ce qu'on répare le monde ? Est-ce qu'on prépare notre Gan Eden ? Est-ce qu'on est gentil avec Dieu ? Que le juif va dire, tu sais quoi ? Bon, aujourd'hui, je vous donne un peu plus. Peut-être qu'il va se dire ça, peut-être qu'il va pas se dire ça. Tu n'en sais rien.
On a dit que non, bien
d'accord.
On est au niveau où on a ce qu'on doit avoir.
Non, je dis qu'on peut avoir un impact, mais tu n'en sais rien. C'est pas une relation de cause à effet. Il n'y a rien à voir.
Pourquoi on danse la Simchat Torah alors ?
Encore une fois, ça change rien. C'est pas parce que je suis pas en train de dire. Ensemble. Ne comprenez pas de ce que je suis en train de dire que nos mitzvot et nos averot ne servent à rien. J'ai pas dit ça.
Les jeux sont faits.
C'est du tout. Les jeux sont faits au niveau de la parnassa, au niveau de l'impact sur notre vie physique.
Talons du Mashiach, on doit ramener Mashiach.
D'accord. Mais maintenant, on a d'autres rôles aujourd'hui. On doit réparer des choses. On doit amener Mashiach, on doit faire d'autres choses. Y a rien à voir. C'est comme tu vois le fils du roi qui est en bas. On lui dit, bon, toi, aujourd'hui, maintenant, on va te demander de faire des petits travaux d'intérêt public. Et ça n'a rien à voir avec sa parnassa. Avant, pour manger, il devait aller en cuisine, se servir, dire ce qu'il voulait. Maintenant, pour manger, de toutes les façons, il mangera. Il ne faut pas se prendre la tête. Par contre, encore une fois, les mitzvot qu'il va avoir auront un impact différent. Pas forcément sur ce qu'il va manger. Ça aura un impact sur est-ce que son père sera content de lui ou pas ? Est-ce qu'il va réparer ce qu'il a fait ? Est-ce qu'un jour il sortira de prison ? Est-ce qu'on est content de lui ? Est-ce qu'on n'est pas content de lui ? Mais c'est d'autres éléments. Ce n'est pas lié à ce qu'il va manger. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Donc c'est pas lié à sa vie. Donc c'est pas lié au fait qu'il va mourir à 50, 60 ans ou pas. Oui.
C'est une gamida qui va être instituée après la destruction. Donc,
oui.
Chose,
encore une fois.
C'est-à-dire, même s'il ne demande pas, je pense que Barney au plus.
Oui.
C'est
encore une fois ce que je viens de dire. Tu vois bien, il y a des gens qui ne vont pas à la mida tous les jours, qui ne prient pas à Kadosh Baruch Hu et qui vivent.
Mais imagine si
c'est attends, une seconde. La majorité du peuple juif, est-ce que la majorité du peuple juif aujourd'hui fait la mida tous les jours ? Oui ou non ?
Non, pas vraiment. On sait pas à cœur, mais
on dit bien sûr.
Est-ce que la majorité du peuple juif aujourd'hui fait la mida, oui ou non ?
Oui.
Non, clairement non. D'accord, clairement non. C'est évident que non. Pourtant, tout le monde dit. Alors, comment ça se fait qu'il y a un problème dans le système ? C'est la réponse. C'est que nous, quand on fait une mitzvah, c'est pas forcément pour que ça ait un impact. Bien sûr, on demande à Kadosh Baruch Hu. C'est comme le fils qui est en bas. Et qui essaye d'être gentil avec le Dieu, lui dit, écoutez, je vous en prie, donnez-moi, je vous en prie, je vous aime, s'il vous plaît. Peut-être avec le temps, il va l'amadouer. Peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'il n'y a pas forcément d'impact sur la parnassa. Il y a d'autres buts. Quand on fait une mitzvah, quand on fait la mida, on va réparer le mal qu'il y a dans le monde, on va réparer des tas de choses, mais c'est pas forcément que ça a un impact sur la parnassa. Avec ça, on comprend ce que le Zohar, il dit, que celui qui fait sa mida. Et lorsqu'il fait sa amida, il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit, donne-moi à manger, et qu'il pense vraiment qu'il est en train de demander la parnassa. D'accord, par exemple, il croit qu'il est en train de demander à Kadosh Baruch Hu à manger. Le Zohar, il dit, c'est comme un chien, qui est en train de dire, donne-moi.
Alors que tu as déjà.
Alors comment comprendre l'amida, encore une fois, c'est ce que le Rabbi explique. On l'a déjà expliqué une fois. C'est qu'en vérité, c'est comme le geôlier, le fils du roi, il est au fond de la cave. On lui dit, écoute, maintenant il faut que tu t'améliores. Il faut que tu arranges ce que tu as fait. Il dit, bon, ok, tu veux que j'arrange. Donne-moi un balai, que je nettoie. J'ai pas de balai, je peux pas essuyer. D'accord ? C'est un peu la même chose qu'on dit, tu veux qu'on fasse tes mitzvot, tu veux qu'on répare le monde. Donne-moi à manger. Donne-moi un balai, j'ai pas de balai, je peux rien faire.
Avec un petit, un manche en argent et
non, parce que moi je dis à Kadosh Baruch Hu, avec un balai de mauvaise qualité, j'arrive pas à travailler. Il me faut un bon balai. Un bon balai, que je travaille bien.
18 carats.
Il nous faut une bonne voiture pour la Lyon-Marseille.
Une pelle en or.
S'il attend qu'on change notre comportement, ça change quoi ? Pourquoi il nous demande qu'on exprime ce qu'on a besoin ? On n'a qu'à faire la mise d'autre, on se comporte mieux, et puis c'est tout. Et puis il sait ce qu'on a besoin,
C'est une autre question. Le fait d'exprimer ce qu'on a besoin, c'est une manière de réaliser que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est une manière de réaliser qu'il y a un patron.
Ah, d'ailleurs, je le dis à des clients qui sont avec le patron aujourd'hui.
C'est juste pour ça.
À 8h30.
Attention, ça veut pas dire que le pilote sert qu'à ça. Bien sûr, ça a un impact. Mais c'est pas une relation de cause à effet.
Mais il y a quand même une...
C'est des gens qui font leur amida tous les jours, trois fois par jour. Ils demandent à Kadosh Baruch Hu, la refoua, la santé, la parnassa. Il n'y a rien qui arrive. Donc il y a un problème, tu n'as pas répondu, ça veut dire. C'est la réponse. Mais non, c'est la réponse que je suis en train d'expliquer. C'est que Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas répondu parce qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. Que quand j'ai prié dans ma Amida, peut-être que Kadosh Baruch Hu, au travers de ma Amida, il cherchait autre chose. Il cherchait qu'il voulait que je cherche un niveau plus profond chez moi. D'accord ? Mais c'est pas forcément qu'il y a une relation de cause à effet.
Et peut-être aussi que la parole à ça qui te donne pas maintenant, il va te donner après.
Peut-être oui, peut-être non.
Si.
Ça veut rien dire ? Pas du tout.
Tu veux dire tout ça, que ça n'est pas lié.
Non, pas du tout.
Alors voilà ma question. S'il n'y a pas de rapport entre tes mitzvot et ta parole à ça, par contre, il y a un rapport entre tes avérotes et ta parole à ça ?
Non.
Si.
Mais non, c'est pas expliqué.
On l'a dit tout à l'heure. On a dit que les gens plus faisaient des avérotes et plus faisaient des blasés.
Non, ce que j'ai expliqué, c'est que quand tu fais des averot, c'est comme le fils du roi qui casse les pieds au geôlier, qui lui crie, il lui casse les pieds, il l'insulte. Il peut l'énerver, donc il peut dire, écoute, dans ce cas-là, je t'envoie plus à manger. Mais c'est pas une relation de cause à effet, parce que peut-être que le geôlier continuera à faire son job comme si de rien n'était. C'est pas une relation de cause à effet. Tu comprends ? C'est pas une relation de cause à effet que je lâche la bouteille et elle se casse. Non. C'est j'ai mis la bouteille dans un endroit où ça te casse les pieds. Comment tu vas réagir ? Peut-être que tu vas mal réagir, tu vas bien réagir, peut-être que tu vas pas réagir du tout, on n'en sait rien, il n'y a pas de cause à effet.
On a expliqué il y a 15 jours, c'était quoi l'effet, c'est qu'à un moment donné, il y a un blocage. C'est
pas
arrivé au « et » d'en bas.
Oui, très bien, très très bien. C'est ce qu'on veut expliquer ici. D'accord.
Mais on n'a pas bien expliqué c'est quoi le blocage. C'est ça qu'on attend la réponse.
Ce qu'on veut expliquer ici, c'est que aujourd'hui, le blocage ne se fait pas forcément au niveau matériel. Alors après, on expliquera, on peut avoir un blocage au niveau spirituel.
Ah
oui, bien sûr.
Réponse,
bien sûr. Parce qu'au niveau spirituel, il y a un blocage, t'as cassé quelque chose.
Merci. Pour dégarder, c'est Western.
D'accord. Oui. Attention. Au niveau spirituel, quand on fait une avéra, il y a un blocage. Bien sûr qu'il y a un blocage. Mais au niveau matériel. Oui, j'en vois qui vont sortir ce soir, qui vont dire, bon, de toute façon, il n'y a pas d'effet, donc on a qu'à faire ce qu'on veut. Non, pas du tout.
Non.
Au niveau spirituel, d'abord, il y a un blocage. Quand on fait une avéra, ça mène un blocage. Quand on fait une avéra, on casse d'autres choses. Mais ce que je vais expliquer ici, c'est qu'il n'y a pas forcément de relation de cause à effet avec la parnassa et avec la vie.
Pourquoi tu as dit sur la parnassa comme ça ?
Parce que ce qu'il a dit ici. On a parlé ici de la vie, de la parnassa.
On n'a pas dit sur la santé, on a dit sur la parnassa.
Mais c'est tout, c'est un tout. On a parlé de Khayav Karet, c'est un tout. À l'époque, quand on dit qu'il devait mourir à 50-60 ans, il mourait à 50-60 ans. Aujourd'hui, ça a un impact, mais pas un impact de cause, pas une relation de cause à effet. C'est beaucoup plus éloigné. C'est beaucoup plus détaché. Comment c'est embêté le grand patron ? Comment il va réagir ? Je ne sais pas. J'ai Amadou, le grand patron. Comment il va réagir ? Bon, qui va dire, bon, d'accord, ça va, je donnerai un autre jour. Bien, je lui garde ça pour plus tard. Je ne sais pas comment il va réagir. C'est pas cause à effet. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Avant, c'est cause à effet.
Enfin, cela dit, une parnassa, après, ça dépend aussi comment c'est employé. C'est pas toujours une bracha, forcément. Donc,
raison, bien sûr. Que j'ai dit, donc le patron, après, c'est lui qui va décider.
Les calculs.
D'accord, bien sûr. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, je prends, je me sers, je fais ce que je veux. Plus tu fais de mitzvot, plus t'as le fric qui arrive.
Le coffre
est bon. N'emploie pas des mots trop couilles comme ça.
Et pourquoi c'est pas précisé alors ?
Quoi ?
Avant, on avait la manne,
là,
il y a pas de fric.
C'est écrit, bien sûr, quand on aura dit. Dans les malédictions, c'est écrit, bien sûr.
Le rabbi, il a dit.
Tu peux comprendre.
Il a
dit, il y a un salaire
au mitzvot.
Bien sûr. Bien sûr.
Il y a un salaire au mitzvot.
Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de salaire pour les mitzvot. Chas v'shalom. Il y a un salaire. Mais le salaire n'est pas forcément ressenti sur place, sur le moment, dans une relation de cause à effet, sur la parnassa. Il sera ressenti sur un beaucoup plus long terme, sur Mashiach, sur le Gan Eden, sur peut-être mes enfants, mes petits-enfants, tu sais pas sur quoi. Impossible de savoir sur quoi. C'est pas comme avant. Avant, c'était cause à effet. Ah, tu fais une misa, tu reçois.
Quand t'as plus de mérite lorsque tu fais les mitzvot.
Bien sûr, ça n'a rien à voir.
J'ai entendu une explication. C'est-à-dire que les potes étaient à la bourse
directement. Oui, parce que c'est les
tellement qu'il a de faute, par exemple, quand il a fait une bonne action, bah Dieu va le remercier tout de suite dans ce monde pour pas qu'il ait... J'ai entendu ça.
Oui, ça c'est une bonne réponse, on en parlera après. C'est une bonne réponse, mais ça répond pas à la question d'Admorazaken.
Mais dans ce cas-là,
ah non. La question d'Admorazaken, c'était comment ça se fait que celui qui devait mourir, qui est Khayav Karet, qui devait mourir à 50 et 60 ans, comment ça se fait qu'il meurt pas à 50 et 60 ans ? C'est ça la question. Et ça, ta réponse, elle ne répond pas à cette question. Oui, mais ça n'a pas une influence directe d'une relation de cause à effet sur la parnassa qu'il aura. C'est pas de cause à effet. C'est beaucoup plus lointain. Bien sûr qu'il y a un impact. Attention, chas v'shalom. D'accord ? Ok, alors on continue. Donc Alexandre a répondu à la question. D'accord ? Alexandre a répondu à la question ? Comment ça se fait qu'ils vivent plus que 50-60 ans? Très simple. Parce qu'aujourd'hui, les Averroth n'ont plus une relation de cause à effet. Donc puisqu'elles n'ont plus une relation de cause à effet, d'accord? Puisqu'elles n'ont plus une relation de cause... Puisqu'elles n'ont plus... Deux secondes, laisse-moi finir. Puisqu'elles n'ont plus de relation de cause à effet, donc, même s'il a fait une Avera, il a cassé autre chose peut-être. Mais il n'a pas cassé sa vie, parce que sa vie était déjà descendue.
Objection, votre honneur. Oui. L'année dernière, on a vu que...
quelle date? Quelle date?
Je sais plus, mais on a vu que le Yetzera, le Yetzera, non, non pas le Yetzera, l'autre côté, on avait appelé le... Comment on appelé le
Yitzhara, hein.
Yitzhara, ah. Se nourrit...
La force du mal.
Très bien, on va voir. On va en parler, on va en parler.
La vérole des Juifs.
On va parler.
Et donc, il rémunère les Juifs de manière beaucoup plus importante lorsqu'ils font de la vérole. Donc, il s'est lié.
Mais c'est la Yitzhara, ça.
C'est lié.
Là, maintenant, le Morzaken... Pardon. On peut aller jusqu'à 10h aujourd'hui.
Ouais. Bon. Pour les fumeurs, c'est dur, mais on va tenir.
Ouais, jusqu'à minuit, j'ai la permission.
Quoi, jusqu'à... jusqu'à moins 10, moi. Bon, on va aller peut-être moins 5. On va finir à moins 5, je pense.
C'est pas évident qu'il faut aller jusqu'au bout, parce que là, faut bien tenir.
Bon, on va avancer un petit peu. On s'arrête quand on s'arrête. Voilà. Alors. Sauf que tout est clair jusqu'à maintenant. Donc, je rappelle. La question qu'on avait au début du chapitre 4, c'est quoi la question qu'on avait? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui devraient mourir à 50, 60 ans qui meurent pas? À l'époque du réponse, à l'époque du Beth Amikdash, il mourait. Puisque la vie dépendait directement relation de cause à effet. Retenez bien bien ce mot. Relation de cause à effet entre le spirituel et le matériel.
Je vais sortir ça
demain. D'accord? Tu fais les mitzvot, tu reçois, tu fais la vérot, tu prends sur la tête, tu meurs. Grâce à Shalom. D'accord? Aujourd'hui, c'est plus une relation de cause à effet. On a expliqué qu'aujourd'hui, c'est une relation qui est beaucoup plus décalée. Ça veut dire que deux secondes, c'est-à-dire que quand je fais une mitzvah aujourd'hui, ça va avoir un impact beaucoup plus général. C'est un impact qui est très très fort, mais ça n'a pas d'impact sur ma vie sur place. C'est pour ça qu'on peut avoir des gens qui ont fait d'Averroth, qui sont Khayav Karet, ils ont fait sauter le fil. Sauf que quoi?
Sauf que quoi?
L'énergie de toutes les façons descend d'elle-même. Tu comprends? Donc quand il a fait sauter le fil, il a cassé autre chose. Par exemple, il aurait dû récupérer des étincelles qu'il ne va pas récupérer. Bon. Il ne va pas les récupérer. Donc, l'autre but, allez messieurs, l'autre but qu'il devait arranger, il ne va pas l'arranger. Mais sa vie, il n'y aura pas d'impact sur sa vie. Pourquoi il n'y aura pas d'impact sur sa vie? Parce que sa vie ne dépend pas en relation de cause à effet avec les mitzvot et la vérot.
Parce que l'énergie est descendue en bas.
Sauf que là, deux secondes, d'abord je vais dire le point qui nous reste à réfléchir, à expliquer. Hein. Après, toutes vos questions. Là, on a une grande question que Morazakan a posée. Il dit, bon, d'accord, je veux bien comprendre, tu m'as expliqué qu'aujourd'hui, les mitzvot et la vérot n'ont pas forcément d'impact sur la parnassa et sur la vie. D'accord, ça n'est pas de problème, je comprends. Moi, j'ai une autre question. Moi, ce que je vois, c'est que les gens qui font des averot, non seulement que ça n'a pas un impact négatif sur leur vie, mais on a l'impression que ça a même un impact positif, que ces gens-là deviennent riches.
C'est ça qui est
et là, il y a un problème. Parce que tu comprends, dans la réponse qu'on vient d'expliquer, on a expliqué que les mitzvot et les averot sont détachés de la réalité. Sont détachés de la vie. Ça a d'autres impacts, mais pas forcément sur notre vie physique. Excuse-moi, je vois le contraire. Moi, je vois que des gens qui font des averot...
C'est pas des causes à effet, c'est...
Ah, bien sûr.
C'est quoi alors?
C'est
pas ce que c'est.
Mais attends. Excuse-moi, on voit les gens qui font des averot, tu vois les gens comme ça, ils font des averot. Milliardaires?
Mais pas tous.
Mais oui.
Les magouilles, comment ça marche les magouilles? D'accord.
Le crime ne paie pas.
Oui, mais ça change pas que c'est une très bonne réponse que vous dites. Mais sauf que ça remet en cause, d'accord? Ça remet en cause tout ce qu'on a expliqué, parce que jusqu'à présent on a expliqué qu'il n'y a pas de relation de cause à effet, il n'y a pas d'impact. Nous on voit qu'il y a un impact et qu'au contraire, non seulement qu'il n'y a pas d'impact négatif, il y a un impact positif. Le gars est un milliardaire.
Mais comment on peut dire que ça va avoir quelque chose?
Parce que il y a ce qu'on voit. La majorité des riches dans le peuple juif, d'accord.
Il
a raison. Non mais c'est vrai. La majorité des richesses qu'on a dans le monde juif aujourd'hui sont des richesses sales, excusez-moi du terme. Mais c'est vrai. Croyez Madoff, bon c'est celui qui lui a fait du bruit. Non mais c'est vrai. La majorité des richesses qu'on a aujourd'hui, d'accord, je dis pas tous. Mais la majorité des richesses qu'il y a aujourd'hui, c'est des richesses qui sont sales. C'est un fait, c'est pas quelque chose qu'on invente.
Même les diamants dans l'air,
c'est bah, si des banque, tu vas automatiquement, tu vas t'enrichir.
D'accord.
Mais le problème, c'est que tu vas
faire des magouilles. Je crois que finalement, pour faire de l'argent, il faut que tu emploies des métas qui sont pas toujours.
Bah oui, alors qu'il y a un problème.
Disons que pour faire de l'argent, il faut être plus.
La cause à l'effet, elle est matérielle.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le business, celui qui est honnête, il a beaucoup de mal à gagner sa part à ça. Celui qui arnaque tout le monde, eh ben, il a des belles fins de mois. C'est un problème.
Oh, mais il y en a qui dort tranquille, il y en a qui dort pas tranquille.
Ah, ouais, non, mais ça c'est autre chose, ça. Non.
Oui, il
dort tranquille, le gars t'inquiète pas, il a une belle baraque, il dort très bien.
Il a toujours un pigeon qui ferme le matin. Il a un super matelas, un lit électrique.
T'inquiète pas, il dort mieux que nous. En plus, il va aller voir un rabbin qui est pas au courant de ses magouilles. Il va lui donner 30% de ce qu'il gagne parce que grâce à Dieu il gagne beaucoup, d'accord.
Et là,
grâce à Dieu. Et le rabbin il va lui faire tout le cavote, il va lui dire presque qu'il va l'appeler Rav lui aussi.
Ouais.
Il va rentrer chez lui, il va être content. D'accord. Il va amener sa femme 5 fois par an en vacances. Elle est contente. Elle a 5 femmes de ménage qui s'occupent de tout ce qu'elle a besoin. Elle est pas énervée. Eh oui, alors il y a un problème. Là, il y a un problème.
Les bar mitzvahs, 300 personnes.
À 10 ans.
Il va avoir autorisation à 10 ans de l'affaire. Qui gagne beaucoup d'argent. Et qui décide de devenir religieux, honnête. Ouais,
mais il
veut dire qu'il est censé gagner
l'argent. Ah, mais celui-là, dès qu'il s'est devenu religieux, il va prendre un coup, il va gagner 1% de ce qu'il gagne.
Non.
C'est sûr.
Donc,
c'est ça la question.
Donc, quelle cause a été, alors?
Ah, voilà. Bonne question. Sauf que cause à effet, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a répondu? Il n'y a pas cause à effet. L'aide pour Azaken va dire, quoi il n'y a pas cause à effet? Bien sûr qu'il y a cause à effet. Il y a cause à effet, non seulement qu'il n'y a pas cause à effet, il y a cause à effet dans le mauvais sens.
Et on voit.
Problème.
Pas spirituel.
On voit qu'avant, ils transpiraient pour gagner la fondation. Il y en a qui passent deux coups de fil et gagnent ce que tu gagnes.
Ouais, mais ils transpirent pendant les deux
camps. Quand, pas quand. Bien sûr.
Il y a coups de fil.
Oui, mais encore une fois, ça ne change pas. Ça change pas. Moi, je vois, tu m'as dit... On vient d'expliquer pendant une heure, d'accord ? On vient d'expliquer pendant une heure qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre nos mitzvot et nos avérons. Alors, peut-être que c'est pas une relation de cause à effet instantanée, mais nous, ce qu'on voit, en tout cas, de nos yeux, c'est que les gens qui font des avérot s'enrichissent. Les gens qui commencent à faire un business, ils sont honnêtes, ça marche comme ci, comme ça, ils commencent à faire des magouilles, d'accord ? Ils cassent la baraque. Irène Reina Batsava Souliga.
Peut-être ce qu'on veut avoir sur notre vie, on va le prendre d'un coup.
Peut-être. Non, c'est faux, non, ça marche pas comme ça.
Bonne question, Mandy.
Non.
Mandy.
Ah non.
C'est réglé, c'est réglé.
Justement, tu veux ma question. D'accord.
Mandy.
Alors, on va expliquer.
C'est ça.
D'accord.
C'est quoi ?
Yves Adraba, au contraire. Qui dit la de Mourazaket. D'accord. C'est avec nous, Raphaël. Alors.
Partez de manger, c'est la vie, ça va, vous.
Faut prendre des
petits
chirurgies, moi. Vous savez quoi, peut-être on va garder ça pour la semaine prochaine. Bon, allez, les questions. Non, mais parce que j'ai pas envie de bâcler. On est resté sur une question. Je vais résumer ce qu'on a expliqué aujourd'hui. D'accord ? Messieurs, je vais résumer. On a ramené la question qu'on a vue dans le Perek d'Alet. On a dit que comment ça se fait qu'il y a des gens qui font d'avérot sur le calendrier Khayaf Karet. Donc s'ils ont Khayaf Karet, il y a une relation de cause à effet. Ils ont coupé le fil, donc normalement ils devraient mourir. Réponse qu'on a expliquée, c'est quoi la réponse qu'on a expliquée? On a dit que cette relation de cause à effet, que tu coupes le fil, Dieu préserve, la personne meurt, c'est seulement à l'époque du Beit HaMikdash. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette relation de cause à effet sur la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une descente. Puisqu'il y a eu une descente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu te livre de toutes les façons. Comme on est au fond de la cave, de toute la façon il te livre. Maintenant l'impact de la mitzvot de avérot va être beaucoup plus abstrait, beaucoup plus difficile. Ça veut dire qu'aujourd'hui une personne peut faire des mitzvot et des avérot toute sa vie, Tu vas lui poser la question à la fin de sa vie, tu vas lui dire alors qu'est-ce que t'as fait avec tes mitzvot? Imaginez-vous un petit fils qui pose la question à son grand-père, il dit papy, alors qu'est-ce que t'as fait avec tes mitzvot? Il n'est pas capable de répondre. Il dit bon ouais je fais les mitzvot, je dis la Torah, et alors et qu'est-ce que t'as fait? À l'époque, tu vas t'amigdage, je dis, ah voilà, je fais les mitzvot, regarde la baraque. D'accord?
Maintenant, ils disent, voilà, ouais, avec les avérotes.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus abstrait. Si on se pose la question au monde de la vérité, on voit l'impact de ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, c'est comme j'ai donné une fois l'exemple dans un des premiers cours de Tania. Aujourd'hui, c'est comme on est dans un cockpit, on te dit, appuie sur ce bouton, n'appuie pas sur ce bouton. Mais tu vois pas ce que tu fais quand tu appuies sur le bouton. Donc t'appuies un peu ici, tu touches un peu partout. Après, quand on arrive en haut, on ouvre le rideau, on se dit voilà, là t'as construit une ville, là t'as détruit une ville. Là t'as construit un palais, là t'as détruit un palais. Mais on voit pas. On voit pas ce qu'on fait. Tu comprends? Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de relation de cause à effet concrète, directe et réelle. Il n'y a pas. Visible.
Mais.
D'accord.
Mais.
Alors. Mais. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent faire d'Averot, sur lesquels on est Khaïf Karet, et qui meurent pas. Parce qu'il n'y a plus de relation concrète. C'est très grave ce qu'ils ont fait. Ça a une relation, ça a un impact sur autre chose, mais ça n'a plus de relation de cause à effet sur leur vie. Ça, c'est le point qu'on a expliqué. Mais on a posé une question, on a dit... Tu viens de m'expliquer qu'il n'y a pas de relation de cause à effet, et pourtant, on voit le contraire. On voit que quelque part, c'est un pressenti, d'accord? Mais on a un sentiment que les gens qui font des Averot,
s'en sortent mieux.
Non seulement qu'il y a une relation de cause à effet, mais en plus, c'est une relation de cause à effet dans le côté contraire. Que ça leur amène plus d'argent que si ils ne faisaient pas d'Averot. Et c'est pas quelque chose, c'est pas un pressenti, c'est quelque chose qu'on voit clairement dans la vie de tous les jours. On voit pas, quelqu'un y voit, il fait des magouilles, ça marche. Dès qu'il essaie d'être bien, de bien se comporter, il commence à faire le Shabbat, pac, il prend une claque. D'accord? Ah, justement, il y a un problème. Le gars, il fait pas le Shabbat. Ça marche. D'accord? Il a un magasin qui marche très bien. Il décide de faire Shabbat, il prend des coups, et t'as le banquier qui appelle, ça marche pas, il va bientôt fermer, il prend des coups. Problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation de cause à effet négative. On est en minus, là, on est en négatif. Donc il y a un problème, comment ça se fait? C'est la réponse à l'explication prochaine.
Il va
expliquer justement qu'on nourrit les forces du mal et qu'il y a une réponse très très intéressante à Edmond Razaken.
On a bien posé le problème.
Non.
Justement, quand on
l'a
faut garder ça pour la semaine prochaine.
Ouais.
Ça veut dire que
il y a une notion de force du mal. D'accord?
C'est normal.
Il y a une notion de force du mal.
Tu peux pas nous faire comme tous les feuilletons de TF1 ou je sais pas quel chaîne. Ensuite, la semaine prochaine, à chaque fois.
Non,
il faut qu'on finisse l'épisode et qu'on reprenne un épisode.
C'est pour que tu viennes la semaine prochaine.
Dans la suite, on expliquera. Non, preview, voilà, preview.
Moi, il y a trois questions.
Dans la suite, on expliquera. Lorsqu'on fait une avéra, oui. On alimente les forces du mal.
Ah.
Et les forces du mal, quelque part, nous récompensent.
Ah.
Et elles vont nous oui. Comment on dit, elles vont nous, bichonner, d'accord? Elles vont nous bichonner pour nous encourager à faire d'autres avérantes.
Ah. C'est bon. D'accord.
Mais c'est une réponse qu'il faut bien développer. On peut pas développer comme ça.
Mais pourtant, ceux qui ont du mal et qui ont pas
de l'autre côté.
La majorité des magouilleurs, ça marche. Et je peux te dire que même ceux qui vont en prison, d'accord? Ils ont eu le temps de mettre déjà beaucoup d'argent de côté. Ils ont prévu qu'ils vont aller en prison, ils vont aller en prison 4-5 ans, après ils vont ressortir et tout va bien. Bon, d'accord. Entre temps, il a...
Il a mis du pognon de côté, il a pris 5 ans.
Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème dans le système. D'accord. Ce qu'on va expliquer, la semaine prochaine, on va expliquer justement cette notion qu'il y a avec les forces du mal, quelque chose d'extraordinaire, une explication extraordinaire de Mourazaken. Ça reste pour aujourd'hui.